Séoul, au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul, au jour le jour. Le samedi 22 novembre était la journée du kimchi en Corée du Sud. À cette occasion, l'ONG Réseau des organismes bénévoles de Corée, connu sous le nom de VANK, a lancé sur Instagram le bingo du kimchi. Le kimchi est un aliment traditionnel coréen préparé en faisant tremper dans le sel divers légumes comme le navet, le chou ou le concombre avant de les assaisonner et les laisser fermenter. Au-delà de sa saveur, le kimchi est reconnu pour ses bienfaits nutritionnels. Amélioration de l'immunité, effets antiviraux et antioxydants, ainsi que prévention de la constipation, de l'entérite ou du cancer du côlon. Il aide même à réduire le cholestérol et les risques d'artériosclérose. Aujourd'hui, on recense plusieurs centaines de types de kimchi différents en fonction des régions et des ingrédients locaux. La journée du kimchi fixée au 22 novembre a été créée pour mieux faire connaître sa valeur. Le chiffre 11 du mois de novembre fait référence aux ingrédients du kimchi et le 22 symbolise ses 22 bienfaits. Pour permettre au public d'apprécier pleinement la signification de cette journée, VANK a publié sur Instagram un bingo du kimchi. La grille de 5 sur 5 est remplie de 25 types de kimchi. On y retrouve non seulement des variétés très courantes, comme celui du chou, de poireaux ou de radis, mais aussi certains plus méconnus, tels que ceux concoctés avec des tiges de patates douces ou encore de dodok, une sorte de racine. L'ONG invite les participants à cocher les kimchi qu'ils ont déjà goûtés et indiquer en commentaire combien de lignes de bingo ils ont réussi à compléter. Les participants peuvent jouer directement via le compte Instagram officiel de VANK, cocher les kimchi qu'ils ont déjà goûtés, puis partager leur score en commentaire. Ce jeu permet de montrer d'un seul coup d'œil toute la diversité du kimchi, tout en invitant chacun à se rappeler les goûts et les souvenirs liés. L'ONG espère ainsi faire redécouvrir de façon naturelle la saveur, la valeur nutritive et la richesse de ce plat. À partir de septembre prochain, les avertissements sur les risques de l'alcool et de son impact au volant seront imprimés en plus grand sur les bouteilles. Le ministère de la Santé et du Bien-être prévoit de réviser un décret de la loi sur la promotion de la santé publique en la matière. Aujourd'hui, les bouteilles d'alcool n'affichent que des avertissements sur les dangers d'une consommation excessive sur la santé et les risques que la boisson représente pour le fœtus. Mais en mars dernier, la loi a été modifiée pour y ajouter un avertissement sur la conduite en état d'ivresse et permettre l'utilisation d'images à la place des mentions écrites. Son entrée en vigueur est prévue pour mars prochain. Le projet de révision vise donc à définir des critères détaillés pour l'affichage des avis d'avertissement et à augmenter sa taille afin d'améliorer la lisibilité. La taille dépendra du volume de la bouteille. Pour les petits contenants de moins de 300 ml, il faudra au minimum 10 points. Entre 300 et 500 ml, comme les bouteilles de soju, ce sera 12 points. De 500 ml jusqu'à 1 litre, on passe à 16 points. Pour les canettes et les bouteilles entièrement revêtues, c'est-à-dire sans étiquette en papier, la taille minimale doit être augmentée de 2 points supplémentaires. En parallèle, la couleur du cadre de l'avertissement doit être nettement différente de celle de l'extérieur, afin que ce soit vraiment bien lisible. Le ministère prévoit de recueillir les avis sur le projet jusqu'au 13 janvier, puis de le mettre en œuvre en septembre prochain, en tenant compte de la préparation de l'industrie de l'alcool. Les émissions de survie sud-coréennes intègrent désormais de nouveaux aspects de la K-culture. Après la gastronomie et la beauté, c'est désormais le chamanisme qui est mis en avant. Disney Plus prépare pour l'an prochain une émission originale intitulée « Guerre du Destin 49 ». Centrée sur les croyances spirituelles coréennes, le programme réunit 49 spécialistes du destin, tels que des chamans, des experts en sajou, la divination coréenne et même un lecteur de pieds. Ils s'affronteront à travers différentes missions pour tester leur propre destin. Pour les Coréens, ces pratiques sont familières, mais pour les spectateurs étrangers, c'est un univers totalement nouveau, permettant au programme de se démarquer. Ces derniers temps, les contenus liés au chamanisme coréen gagnent en popularité à l'échelle mondiale. Les films Exuma et K-pop Demon Hunters, ou encore l'émission Possessed Love, qui mêle le chamanisme et les éléments occultes, s'imposent comme un nouveau thème de la culture coréenne. Certains touristes étrangers, influencés par ces œuvres, visitent même le pays du matin clair pour essayer le sajou ou consulter un chaman. Cette tendance suit le succès des programmes basés sur d'autres éléments de la K-culture. L'émission culinaire La Guerre des Toques, où des cuisiniers amateurs défient des chefs reconnus, a été la première émission sud-coréenne de Netflix à rester 3 semaines en tête du classement mondial des programmes non anglophones. Quant au show Just Make Up, diffusé sur Coupang Play, il a créé un véritable engouement parmi les fans de cosmétiques en combinant la compétition et la K-beauty. Selon un responsable d'une plateforme de streaming, le marché des émissions liées au hip-hop ou à la K-pop est désormais saturé. Les téléspectateurs recherchent de nouveaux concepts et les émissions exploitant des aspects encore méconnus peuvent offrir une vraie bouffée de nouveautés à l'international. Maintenant, partageons un message de nos auditeurs. Mardi dernier, nous avons présenté le DDP, le Dongdaemun Design Plaza, situé à Séoul. À ce propos, Annick Thierry nous a écrit « Oui, vu et André-Marie, très très belle architecture, j'adore. Il a été conçu pour briser la frontière entre l'architecture et la nature et pour mettre en valeur la beauté des courbes. C'est vraiment un endroit à ne pas manquer quand on vient à Séoul. » Avant de passer à la prochaine nouvelle, je vous propose d'écouter une chanson qui sent le chamanisme coréen. Voici Changgui d'An Yeun.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce lundi 24 novembre 2025 vous est présentée par Elodie Stanislas. L'ancien chef de l'État Moon Jae-in vient de lancer une chaîne YouTube, une première pour un ex-président. Le 17 novembre, il est apparu sur la chaîne officielle de sa librairie, Pyeongsang Chaekbang TV, pour présenter ses recommandations de livres. Dans ce premier épisode, il a mis en avant 3 ouvrages, parmi eux, un recueil de poésie intitulé « Maintenant, je rentre à la maison ». Il rassemble les poèmes écrits par 76 adolescents du centre de protection de Gyeongsang du Sud, placés sous mesure éducative par décision de tribunaux. Moon Jae-in explique que ses poèmes reflètent les sentiments bruts d'adolescents à un moment charnier. Revenir sur le droit chemin ou continuer à s'égarer. Un livre d'une valeur inestimable selon le nouveau gestionnaire de la chaîne. Il recommande aussi, en un lien avec ce thème, « Je suis rouge », le premier recueil de poésie jeunesse publié en Corée du Sud, écrit par Park Sang-woo. La vidéo, tournée sous forme de conversation avec Tan Kyeon-min, l'ancien conseiller au protocole présidentiel, a déjà dépassé les 83 000 vues. La chaîne annonce un nouvel épisode chaque lundi. Moon Jae-in y apparaîtra régulièrement pour présenter ses recommandations de lecture. Dans cette même vidéo, on découvre également quelques scènes de son quotidien. L'ancien président a montré son potager en disant que chez lui, il y a de tout, comme des poireaux, des laitues, des piments, des tomates et même du gingembre et du taro. Puis on le voit saluer ses voisins ou encore s'occuper de ses tournesols. Depuis son départ de la présidence en mai 2022, l'ancien dirigeant s'est installé à Yangsan, dans le Gyeongsang du Sud, où il a ouvert sa propre librairie. Il partage régulièrement ses recommandations d'ouvrages sur ses réseaux sociaux et participe à des rencontres littéraires ou à divers salons du livre. L'île de Jeju ouvre du 13 au 26 décembre les inscriptions pour l'évaluation de tempérament des chiens dangereux. Un dispositif visant à renforcer la sécurité liée aux animaux de compagnie. Cette évaluation concerne notamment les races comme le Tosa ou le Pitbull. Elle permet d'analyser de manière complète leur agressivité, leur comportement et leur état de santé, ainsi que la capacité du propriétaire à bien les contrôler. Comme ces chiens ont en général un niveau d'agressivité, d'instinct de défense et de territorialité plus élevé que les autres races, plusieurs procédures sont nécessaires pour les élever. Il faut d'abord les enregistrer à l'État, souscrire une assurance, faire stériliser l'animal et réussir l'évaluation de tempérament. Le test se déroule dans 12 situations simulées. D'abord, le chien doit porter une muselière. On observe ensuite sa réaction lorsqu'un évaluateur tente de le toucher ou lorsqu'il est attaché. On regarde aussi comment il réagit en croisant une poussette ou quand une trottinette passe à proximité. Ensuite, on observe sa réaction à l'arrivée d'un inconnu, à la rencontre avec une personne tenant un parapluie et au déplacement au milieu d'une foule. Le test prévoit également une rencontre avec un petit chien, puis avec un gros chien. Enfin, on évalue également comment il réagit face à un ballon ou à un bruit soudain. Même après avoir obtenu l'autorisation, les propriétaires doivent suivre 3 heures de formation chaque année et respecter strictement les règles de sécurité, notamment l'assurance obligatoire, ainsi que le port de la muselière et de la laisse lors d'une sortie avec un chien de plus de 3 mois. Actuellement, l'île méridionale compte 54 chiens classés comme dangereux, répartis dans 37 foyers. Toute personne élevant un chien dangereux, sans autorisation, encourt jusqu'à 1 an de prison ou une amende maximale de 10 millions de won, soit près de 5 900 euros. Sur YouTube, les abonnés de la chaîne Détective de chat, le chat en studio, attendent toujours la même scène, le moment où apparaît le mot « retrouver » avec une musique de fond calme. Derrière cette scène, il y a Huang Wujin, 37 ans, détective pour chat depuis 6 ans. Il passe ses journées à traverser le pays pour retrouver des chats perdus. Dans une interview accordée au quotidien Gugmin Ilbo, il expliquait que pour certains, un chat est le seul membre de leur famille. Huang élève lui-même un chat, Akko. C'est en aidant par hasard un voisin à retrouver son chat en 2020 qu'il a réalisé que ce métier existait et que c'était fait pour lui. Peu après, il est parti se former auprès d'un détective expérimenté et a appris comment analyser un lieu, suivre la trace et le capturer sans le mettre en danger. Depuis ses débuts en octobre 2020, il peut compter sur les doigts d'une main les jours où il s'est vraiment reposé. Sa famille, qui s'inquiétait au début en se demandant si ça pouvait vraiment devenir un métier, est aujourd'hui son premier soutien. Quand Huang doit partir pour une astreinte, sa famille s'occupe d'Ako à sa place. Pour Huang, il y a une mission aussi importante que de retrouver le chat, protéger le moral du propriétaire. Il essaie de montrer l'exemple, sans donner de faux espoirs, mais sans jamais baisser les bras. Alors, comment retrouve-t-on un chat ? Les chats sont des animaux de territoire. Dès qu'ils sortent de leur zone, ils paniquent et se cachent dans des endroits à l'abri, camouflés. Le travail du détective consiste donc à fouiller chaque coin isolé, chaque fente où un chat pourrait se réfugier. Huang explique qu'il inspecte toujours les lieux en se répétant « il est quelque part ici ». Parce que quand on pense « ça ne doit pas être là », on risque de passer devant le chat sans le voir. C'est comme ça qu'il a déjà trouvé un chat dans une poussette pliée, un autre dans un tiroir qu'on croyait déjà avoir fouillé. Ce qui le blesse le plus, ce sont les gens qui minimisent son travail ou ne regardent que le résultat. Certains trouvent normal qu'ils retrouvent le chat parce qu'ils ont payé. D'autres parlent d'arnaque quand il échoue. Il demande 250 000 won, soit 150 euros au départ, et 200 000 won ou 120 euros de plus en cas de réussite. Mais ce qui le touche vraiment, ce sont les messages de gratitude. Certains donnent des nouvelles de leur chat longtemps après, en disant que grâce à lui, ils vont très bien. Alors comment éviter de perdre son chat ? Selon Huang, il ne faut jamais faire confiance à son chat. C'est le seul vrai moyen d'éviter sa disparition. Avant de passer à Focus Asie, écoutons ensemble Cat de Song Woo-jung-ha en featuring avec IU.
Pour bien commencer la semaine, quoi de mieux que les faits divers en provenance d'Asie? Voici Focus Asie, présenté par Oh Hayang.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Asie. Notre voyage commence en Mongolie où une tempête de neige précoce a déjà plongé des steppes dans l'hiver et l'inquiétude. Pour les nomades, c'est le signal d'une saison rude qui commence. Dans le blizzard, l'éleveur Saikan part vérifier ses bêtes qui sont proches de la famille dans la culture des éleveurs nomades mongols. Il a réussi à les mettre à l'abri juste avant la tempête, mais le plus dur reste à venir. Avec le froid extrême, le bétail risque de ne plus trouver de nourriture et on redoute une mortalité en masse des troupeaux. Sachez que la Mongolie est constituée de 80% de pâturage et un quart de la population pratique encore le nomadisme. Le changement climatique a réduit la qualité et la taille des terres et le surpâturage a fortement dégradé le reste, poussant ceux qui ont perdu leur bétail à migrer vers la capitale comme réfugiés climatiques. À présent, nous nous rendons en Chine, quand Yiptong marque l'entrée de l'hiver selon le calendrier lunaire et les préparatifs pour la saison froide vont bon train. Dans le nord-est, les marchés sont remplis de familles venues acheter les légumes qu'elles conserveront pendant toute la saison. Autrefois, on en stockait plus d'une tonne par foyer. Aujourd'hui, une cinquantaine de kilos suffit. Plus au sud, à Chengdu, les étals de viande fumée ne désemplissent pas. C'est un incontournable de repas d'hiver, préparé avec soin, frotté chaque jour de sauce et retourné matin et soir. Et à Guilin, les cours et les toits se couvrent de kaki en train de sécher. Le retour à la mode de kaki séché en guise de collation profite aussi aux agriculteurs locaux dont les revenus augmentent. Restons dans l'empire du milieu, qui a battu un nouveau record en matière de brevets. En 2024, le pays a déposé 1,8 million de demandes, soit près de la moitié du total mondial, et plus d'un million de ces dépôts ont été validés. En 10 ans, la part chinoise est passée de 35 à 49%, laissant loin derrière les États-Unis qui ont déposé trois fois moins de demandes l'an dernier. Autre contraste, plus de 90% des demandes chinoises viennent de résidents locaux, alors qu'aux USA, plus la moitié émane de non-résidents. La domination de la Chine n'est pas un cas isolé, puisque l'Asie totalise plus de 70% des dépôts mondiaux, l'Inde et la Corée du Sud affichant une forte progression. Pékin mise particulièrement sur l'intelligence artificielle, affirmant détenir 60% des brevets mondiaux du secteur. Direction les environs de Hanoï, dans le petit village de Tu Van, on y fabrique le drapeau vietnamien depuis 80 ans. Dans un atelier modeste, une artisane brode chaque jour une étoile jaune sur un fond rouge éclatant. Le processus est minutieux. Pas moins de 12 étapes, de la teinture du tissu jusqu'à la broderie finale, avec un objectif essentiel, conserver la vivacité des couleurs dans le temps. Héritée de son père, cette tradition est avant tout une histoire de fierté. Les artisans disent ressentir une émotion particulière quand leurs drapeaux sont suspendus dans les temples. Et dans les rues, même les nouveaux arrivants remarquent ces balcons habillés de rouge et d'or, signe d'une identité profondément revendiquée. « Notre voyage de la semaine s'achève en Thaïlande, dans un marché flottant centenaire près de Bangkok, avec ses maisons en bois, ses petites boutiques d'artisanat et ses cafés au bord de l'eau, l'endroit attire déjà les visiteurs. Mais ce qui fait désormais sensation, ce sont les chats du marché qui prennent le bateau avec les visiteurs. Tout a commencé quand un propriétaire de maison d'hôte a laissé ses animaux, trop curieux, voyager avec les touristes. Depuis, les félins montent librement à bord des embarcations qui longent le canal, passant d'un bateau à l'autre sans la moindre hésitation. Cette scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et les visiteurs du monde entier viennent désormais pour partager une promenade sur l'eau avec les chats batelliers.
Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du lundi. C'était Idiyun à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Ohayong à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon début de semaine à l'écoute de KBS World Radio.